Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Yann. C'est tenu le samedi 16 novembre à la Croisée des Possibles à Crépy-en-Valois, la deuxième édition du salon Autonomie et Handicap. Salon qui vous propose des solutions et des informations pour maintenir en autonomie des personnes de tout âge. Sur place, de nombreux exposants et toute la journée ont eu lieu 15 conférences. Nous sommes avec Marie Thomassin, l'organisatrice du salon.
Bonjour, donc c'est Marie Thomassin, la Croisée des Possibles.
Avant de parler du salon, madame, pourriez-vous dire un petit mot là où on est sur cette salle, la Croisée des Possibles ?
Oui, tout à fait. Donc, la Croisée des Possibles a été ouverte et inaugurée en septembre 2016. Donc, elle a un petit 3 ans derrière elle d'existence. C'est un lieu qui répond aux normes d'accessibilité et qui est entièrement de plein pied et qui peut accueillir de 10, même j'ai eu 4 personnes une fois, jusqu'à 70 personnes assises et 80 personnes debout. Donc d'accord. J'ai aussi bien des événements professionnels que privés et également des salons donc, qui sont publics et ouverts à tous comme celui-ci.
Sur place, on peut trouver de nombreux exposants. On a des assureurs, des sophrologues, mais aussi par exemple un représentant de la Chambre des notaires.
Oui, tout à fait. Donc en fait, au cours de la journée, vont se succéder des conférences avec des intervenants qui viendront ponctuellement sur le salon, donc sur une durée limitée pour la plupart, qui sera à peu près d'une demi-heure à une heure, et donc ils pourront échanger avec vous après avoir fait une conférence. L'idée, c'est d'avoir au cours de la journée différents intervenants qui vont sensibiliser au monde du handicap et surtout sensibiliser au fait de perdre son autonomie, de garder malgré tout la possibilité de rester chez soi.
On a beaucoup de salons du bien-être, mais en fait, votre thématique, l'autonomie et le handicap, c'est plutôt assez rare.
Oui, tout à fait, parce que c'est peut-être un sujet un peu moins glamour et qui attire un peu moins. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser le public au fait que la perte d'autonomie et le handicap peuvent toucher tout le monde. Et de s'informer en amont, c'est beaucoup plus facile que d'attendre d'être confronté au handicap, à une situation de handicap. Et tout simplement aussi de penser aux autres, parce qu'on a toujours autour de soi une personne que l'on connaît qui soit est vieillissante, soit vient d'avoir un souci de santé ou un accident qui l'a conduit à une situation de handicap.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce salon est dédié aux handicapés, mais aussi aux aidants.
Oui, tout à fait. Ce qui est constaté globalement, c'est qu'on se rend compte que souvent, l'aidant précède dans la mort, l'aidant, l'aider, pour la bonne et simple raison, qu'il s'est consacré totalement à l'aider et qu'il continue donc à ne plus compter son temps ni sa fatigue et va au-delà de ses limites. Donc, il oublie de se prendre en considération par rapport au travail que ça représente et à la fatigue que ça représente. L'idée également sur ce salon, c'est de faire intervenir des associations. Donc là, on vient de voir passer des personnes qui vont présenter le fait d'être malvoyant ou aveugle. Et l'idée derrière, aussi bien la page cet après-midi, l'association pour les jeunes et adultes handicapés, ainsi que France Alzheimer, c'est aussi de mettre en avant que peut-être d'aider ces structures alors qu'on est en forme, c'est une action de bénévolat qui permettra de maintenir ces associations présentes sur le territoire. Puisqu'une association, comme tout le monde le sait, est constituée essentiellement de bénévoles, avec parfois une direction qui est rémunérée, mais très majoritairement, elle est constituée de bénévoles. Ces bénévoles ne sont pas un vivier inépuisable, bien au contraire. Beaucoup d'associations disparaissent et on s'en étonne, mais elles disparaissent simplement parce que beaucoup de personnes qui sont allées vers elles les ont prises en tant que consommateurs et n'ont pas pris en compte que ce sont des associations. Donc elles ont besoin d'avoir des personnes qui s'engagent et qui s'investissent au même titre que ceux qui reçoivent les bénéfices de leur présence sur le territoire. On a beaucoup de visiteurs qui viennent sur le salon, qui regardent aussi bien des scooters de Bastille Le Confort Médical ou des déambulateurs ou différents fauteuils roulants et qui en fait préfèrent venir armés d'une canne parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne sont pas encore dans un état qui nécessite le fait de passer au déambulateur ou au fauteuil roulant. Le fait de reculer ces échéances entraîne des risques aggravés de chute qui vont les conduire à devenir de vrais invalides de façon prématurée, alors qu'ils auraient pu éviter ces chutes en étant munis d'un déambulateur adapté à leur morphologie. L'avantage de faire venir Bastille le confort médical, c'est que c'est un professionnel de l'équipement. Alors que vous avez évidemment énormément de pharmacies maintenant de secteur qui vous proposent un équipement, seulement ils vous commandent sur papier un déambulateur qui est lambda pour eux. Il a l'air de correspondre à votre besoin que vous signaler, mais ils ne prennent pas le temps de s'interroger sur votre façon de vous déplacer, votre morphologie, vos contraintes. Et pourquoi Bastille le confort médical? Parce que c'est un des prestataires qui a accepté de venir sur ce salon et d'y contribuer financièrement pour permettre une certaine visibilité de celui-ci. Donc pour ceux qui n'auront pas pu venir sur le salon, il y a des enregistrements qui sont faits pendant le salon et qui permettront donc de revoir ce qui a été dit.
Marie Thomassin, merci à vous.
Merci d'être venu.
Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle? Vas-y, tu peux leur parler normalement.
Nous sommes avec Johanna Descoings.
Bonjour.
Donc vous êtes biographe privé.
C'est ça, pour des particuliers comme vous et moi en fait.
Vous venez d'animer à l'instant une conférence qui avait pour thème « Écrire pour sublimer la perte ».
Oui, alors en fait, je parlais du fait que des personnes ressentent le besoin de témoigner de ce qu'ils ont vécu, en particulier dans des circonstances un peu difficiles qui peuvent être un accident, un décès dans la famille, qui sont souvent le déclencheur en fait de l'envie d'écrire, de laisser une trace en fait.
Donc concrètement, ça se passe comment? Ils viennent vous voir? Vous instaurez un dialogue avec la personne?
Oui, la personne qu'on m'appelle pour me dire en fait ce qu'elle souhaite. Et si le projet convient, en fait, le plus souvent, je vais chez la personne et elle me raconte son histoire. On fait des séances de 2 heures, en fait, où elle me raconte donc pendant 2 heures son parcours. Et donc, j'enregistre le témoignage et après, je retourne chez moi, je réécris le témoignage de façon à ce qu'on puisse après le lire de façon comme un livre en fait. Et donc ça c'est une possibilité, ou alors si la personne préfère écrire par elle-même, c'est aussi une possibilité, elle peut écrire le texte et on en reparle ensemble, on y retravaille, je lui apporte soit des conseils, soit des corrections.
C'est des récits qui peuvent aller de quelques pages à des choses plus conséquentes?
Ah oui, le plus court que j'ai eu, c'était effectivement sur 30 pages, donc c'était vraiment extrêmement court. La plupart des récits font entre 120 et 200 pages, en fonction de ce que la personne a envie de raconter. Et on peut rajouter à cela des pages d'illustration, donc des photos, des documents familiaux, un arbre généalogique, etc.
Donc c'est un travail assez précis et assez monumental?
On est entre l'artisanat, le côté artistique, culturel et un peu aussi une approche psychologique, puisque en fait, il s'agit d'une relation de confiance qui se crée entre l'auteur et donc l'écrivain. Et donc, il faut qu'on puisse se rencontrer et qu'elle puisse me parler de son histoire en toute confiance. Il y a bien sûr le sceau de la confidentialité, c'est-à-dire qu'elle peut me dire tout ce qu'elle veut, ne sera écrit que ce qu'elle souhaite laisser comme trace. En fait, il y a beaucoup de choses qui sortent, je veux dire, qui sont dites, mais qui ne sont pas forcément faites pour être transmises, en fait.
Ces récits sont évidemment écrits à la première personne du singulier?
La plupart du temps, oui. Après, c'est vraiment à la demande et en fonction des circonstances. Donc oui, 9 fois sur 10, c'est à la première personne du singulier. Après, j'ai eu le cas, par exemple, d'une petite fille qui a été handicapée à la naissance et donc dont la grand-mère a contribué à ce qu'elle puisse vivre, parce qu'en fait, elle se laissait aller, elle ne se nourrissait plus, donc elle lui racontait des petits contes pour la faire vivre. À ce moment-là, là, on est plus dans un récit. Donc on a 2 récits qui se croisent. La relation entre la grand-mère et la petite fille et les contes que la grand-mère racontait. Donc tout ça s'est retranscrit. Donc là, on est plus sur un style où il y a un croisement entre le conte et puis une histoire, un peu comme un roman en fait. Ça fait un peu comme les Contes des Mille et Une Nuits. Une fois, j'ai écrit une pièce de théâtre, puisque en fait, la personne qui devait témoigner, le monsieur qui devait raconter son histoire, en fait, avait beaucoup perdu de mémoire et donc n'était plus en mesure de raconter son histoire. Et donc, ce sont ses petits-enfants qui ont raconté ce dont ils se souvenaient de ce que le grand-père avait raconté pendant les nombreuses fêtes de famille, repas de famille. Donc, et en fait, on a fait un assemblage des témoignages du grand-père lui-même, des petits-enfants, de ce qu'ils ont pu raconter. Et donc, pour pouvoir le mettre en scène de façon littéraire et de façon... on a fait une pièce de théâtre. Donc, il y a plein de possibilités. En fait.
Et que deviennent les ouvrages après ? Une fois qu'ils ont été écrits, ils restent dans la famille. Parfois, ils peuvent être publiés pour le grand public.
La plupart du temps, les ouvrages restent dans le cadre familial. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits pour être commercialisés. Après, les droits d'auteur appartiennent de toute façon à la personne qui a témoigné. Donc, elle est libre d'en faire ce qu'elle veut. Si elle souhaite rechercher une maison d'édition, elle peut le faire. Aujourd'hui, avec l'auto-édition, c'est assez facile en fait de pouvoir commercialiser son livre en ligne, surtout si on reste sur un format numérique. C'est assez peu coûteux.
Et les éditeurs sont intéressés pour travailler avec vous, pour avoir des renseignements plus précis sur votre activité. Comment font-ils ?
Alors j'ai un site internet donc qui est écrire-et-devenir.fr. Donc on peut aussi me contacter donc par mail, donc contact@écrire-et-devenir.fr ou par téléphone au 07 80 32 22 27.
Vous êtes basé près d'Amiens à Ailly-sur-Noye, c'est ça ?
C'est ça. Et donc je me déplace en fonction des besoins un peu partout.
Merci à vous.
C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance, un équilibre fragile. Un oiseau dans l'orage.
Alors bonjour, je suis Catherine Couvreur, collaboratrice salariée du groupe Alliance dans la partie expertise et conseil. J'interviens aujourd'hui sur le salon autonomie et handicap pour le domaine spécifique donc du monde du handicap. Alors c'est quelque chose qui est effectivement très complexe parce que les parents souvent sont, comme tous parents, dans la recherche de la protection de leur enfant handicapé. Néanmoins, il faut apporter beaucoup de vigilance dans ce qu'on veut mettre en place puisqu'il peut y avoir des conséquences sur les allocations perçues par l'enfant handicapé lui-même. Et il ne faut pas oublier non plus la protection de l'autre parent, conjoint survivant, de la fratrie. Donc nous prenons en considération la globalité de la famille et non pas gérer une approche produit spécifique. Alors au-delà de ça, nous rencontrons les parents, les familles à leur domicile. Nous faisons également des conférences auprès des associations de parents, par exemple l'APUI, ou d'autres associations qui veulent nous solliciter. Encore une fois, on a une approche globale. On essaie d'être le plus pédagogue possible dans notre information. Les parents sont aussi très souvent inquiets sur qu'est-ce qui sera restituable ou pas à leur décès ou au décès de leur enfant, malheureusement. Voilà. Donc c'est une information globale que nous donnons encore une fois.
D'accord. Parce que parfois, effectivement, vous rentrez vraiment dans l'intime de la famille.
Alors, on est complètement dans l'intime de la famille. Je dirais qu'on est un peu le médecin des finances, dans le sens où, comme votre médecin, si vous allez le voir en disant simplement « j'ai mal à la tête », mais que vous ne lui dites pas « j'ai mal à la tête depuis combien de temps, j'ai un traitement médical en route, j'ai des allergies », le diagnostic de votre médecin ne sera pas bon. De la même manière, notre diagnostic et nos préconisations ne seront pas bonnes non plus. Alors, sachant qu'en fonction des cas que l'on peut rencontrer, quelqu'un qui va être particulier salarié, mais aussi des chefs d'entreprise, il peut y avoir des conséquences très importantes, très négatives. Donc, dans l'approche qu'on va faire, on maille également avec leur partenaires, experts comptables, notaires, éventuellement avocats fiscalistes, de façon à ce que la préconisation soit la plus adaptée et la plus intelligente possible pour les uns et pour les autres.
Si les auditeurs seraient intéressés par vos services, comment font-ils ?
Donc, je suis salariée du groupe Alliance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nos bureaux sont basés à la Croix-Saint-Ouen. En revanche, moi, je me déplace au domicile de mes clients ou personnes qui souhaitent avoir des informations, qu'elles soient particulières ou professionnelles. Je vous laisse mon numéro de portable, c'est un portable professionnel, n'hésitez pas. Donc c'est au 06 77 83 89 43. Vous pouvez aussi me joindre par email catherine.couvreur@alliance.fr. À votre disposition et avec plaisir.
Parfois la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les cinq sens des handicapés sont touchés, mais c'est un sixième qui les délivre. bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction. Ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.
J'étais donc en ce samedi 16 novembre à la Croisée des Possibles, à Crépy-en-Valois, pour la deuxième édition du salon Autonomie et Handicap. Au revoir.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.